soir, qui durera plusieurs séances, sur les différentes théories en ce qui concerne le millénium. On va s'arrêter pas mal de temps sur cette question. D'abord parce que c'est une question qui est très controversée actuellement. Et deuxièmement parce que c'est une question qui est beaucoup plus importante qu'elle ne paraît. Car de la vision que l'on a du millénium, donc du règne ultime du Messie en quelque sorte, dépend beaucoup de choses. Dépend toute une vision du monde, toute une vision de notre attitude, de notre comportement dans le monde. Et par conséquent, c'est bien quelque chose d'essentiel. Bon, on a vu la dernière fois ce que la Bible entendait par le millénium, qui ressortait en lisant les textes, et ce qui a été jusqu'à il y a 10-12 ans peut-être, la doctrine officielle, on pourrait dire, de tout le monde évangélique, toutes tendances confondues. Bon, les églises historiques n'étaient pas millénaristes, et nous allons voir pourquoi dans un instant, mais ce qui maintenant est alarmant, et ce pourquoi justement nous allons nous arrêter sur cette question, c'est qu'au sein même du monde évangélique, de plus en plus de gens sont en train d'abandonner le millénarisme. C'est le cas, par exemple, de Henri Blocher, professeur et doyen de la faculté de Vaux-sur-Seine, dite évangélique. C'est le cas d'Alfred Kuhn, qui est directeur de l'Institut Emmaüs, qui a remplacé René Page, qui lui, au contraire, était un millénariste convaincu. C'est bien entendu le cas de la faculté d'Aix-en-Provence, mais celle-là, elle a toujours été donc un millénariste, donc ça n'est pas nouveau. Mais de plus en plus donc de jeunes pasteurs, et y compris les Assemblées de Dieu, lorsque j'étais à Melun, je me laissais dire qu'un certain nombre de pasteurs aussi dans l'Assemblée de Dieu étaient devenus amillénaristes eux aussi. Bon, qu'est-ce qui amène cette dérive dans les milieux évangéliques d'abord? Eh bien, plusieurs choses. D'une part, le fait que l'Union soviétique se soit effondrée. Ça a beaucoup joué. Dans la mesure où beaucoup voyaient dans le système communiste soit l'Antichrist, soit le Gog d'Ézéchiel 38 et 39. À partir du moment où l'Union soviétique s'est effondrée, et pour l'heure en tout cas n'est plus à même de jouer ce rôle-là, un certain nombre de gens, à courte vue, qui suivent les événements plutôt que la Bible, concluent que le système lui-même doit être revu. Et c'est ainsi qu'on se penche sur la fameuse prophétie des 70 semaines de Daniel 9, et avec raison, à mon sens, sur ce point-là en tout cas, on constate que la division entre 69 semaines plus une est artificielle. Ça, nous l'avions vu quand nous avons étudié justement cette prophétie des semaines. Et il semble bien, quand on lit le texte de Daniel lui-même, que les 70 semaines se succèdent d'un seul tenant, sans cette soi-disant parenthèse de 2000 ans que les dispensationalistes ont voulu introduire pour coller en quelque sorte avec la réalité. Et troisième point, et non des moindres, c'est la délégitimisation d'Israël en tant qu'État à laquelle on assiste depuis plus de 30 ans maintenant, depuis la guerre des Six Jours en particulier, de telle sorte que tous les vieux stéréotypes plus ou moins teintés de relents antisémites ressurgissent dans un certain nombre de milieux, et que beaucoup sont tentés de revenir à la bonne vieille théorie de la théologie de la substitution sur laquelle nous aurons justement à nous pencher longuement. Alors, il y a pour le moins, dans la plupart des milieux évangéliques aujourd'hui, un trouble certain par rapport à l'eschatologie, et de plus en plus naît l'idée dans beaucoup de milieux qu'on ne peut pas savoir. Que rester dans une vision millénariste telle qu'elle existait au début du XXe siècle, c'est accorder plus d'importance à Israël qu'à Jésus, on fait grand cas de la parole de Jésus, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. On constate aussi que le millénarisme apparaît dans les écrits apocalyptiques pré-chrétiens, juifs, et dans la mesure où justement des vieux sentiments troubles par rapport aux juifs ressurgissent de notre temps, c'est une des raisons qui amène un certain nombre de gens à rejeter la vision millénariste comme étant quelque chose qui est juif. Et c'est ainsi que on reprend ce qu'ont fait les pères de l'Église, finalement, à commencer par Origène. C'est Origène qui, le premier, a rejeté le millénarisme, qui était la règle aussi dans l'Église ancienne, jusqu'à Origène, n'est-ce pas ? Mais Origène a déclaré que le millénarisme était une vision juive, et que pour cette raison, elle devait être rejetée. C'était la raison essentielle. On voit la profondeur de l'argumentation. À cela, d'ailleurs, déjà, Irénée avait répondu à la fin du IIe siècle, en disant à peu près ceci: « Nous n'avons pas le droit de regarder par-dessus l'épaule des apôtres et de corriger leurs copies. » C'était une réflexion pleine de bon sens. « Après tout, disait Irénée, qui sont ces gens qui se permettent de dire que sur tel et tel point les apôtres se sont trompés ?» Et ça, c'est une tentation permanente, hein, ça, jusqu'à nos jours, de corriger justement les apôtres au nom de nos théories, de notre vision. Est-ce que, disait Irénée, ce n'est pas plutôt à nous de remettre en question nos théories à la lumière justement de l'héritage apostolique, car, disait-il, ce n'est pas seulement l'enseignement des apôtres qui est normatif pour l'Église, mais c'est aussi leur exemple et leur comportement. Très important. Très important. Alors donc, Origène est le premier à remettre en question le millénarisme, mais la coupure, déjà même au IIe siècle, mais on peut remonter plutôt avec Justin Martyr, qui est originaire de Samarie, bien que n'étant pas samaritain, c'était un grec. Et on voit qu'avec Justin Martyr, on est dans une période transitoire où Justin dit que de son temps encore, il y a des gens qui croient que le Messie régnera pendant 1000 ans, etc. Il dit que lui ne le croit pas, mais que, bon, il conçoit qu'on puisse le penser. Donc il y a encore ici une période transitoire. Avec Augustin, c'est terminé. Augustin d'Hippone, donc 5e siècle, déjà Ambroise, avant lui déjà, avait aussi pas mal attaqué le millénarisme. Les kyliastes, comme on les appelait, ça vient d'un mot grec qui signifie « mille », kylias, c'est « mille » en grec. Et les kyliastes, ce sont donc les millénaristes. Et on a commencé à polémiquer à partir du 4e siècle, surtout après la conversion de Constantin, très fort contre les kyliastes. Et Augustin, donc, a mis fin définitivement au millénarisme dans l'Église officielle. Il faudra attendre pratiquement nos jours pour que le millénarisme ressurgisse. C'est la raison pour laquelle Calvin le liquide d'une phrase, ce qui n'est pas pour lui une preuve de surmenage extraordinaire sur le plan intellectuel. Et ce sont les piétistes, à partir du XVIIe siècle et surtout du XVIIIe siècle, qui vont le remettre en vigueur. Maintenant, alors qu'au XVIIIe siècle, on avait vu dans ces milieux piétistes et puritains une résurgence du millénarisme, au XIXe siècle, il y a un retour en arrière. Il y a un retour en arrière, notamment dans les milieux libéraux, où on pense que le XIXe siècle sera un siècle chrétien. C'est une conquête, c'est la grande époque de l'expansion missionnaire, nous avons vu ça en histoire de l'Église, et l'on pense que on va réussir à créer par l'élan missionnaire un monde qui sera tout entier chrétien, une chrétienté, si vous voulez, à l'échelon de la terre entière. C'est Albert Schweitzer, le fameux docteur de Lambaréné, bien connu, qui était en même temps un théologien de haut niveau, qui a un petit peu mis une torpille, on peut dire, dans cette théorie-là, bien que lui-même était missionnaire, et il était à fond engagé dans cet élan missionnaire, mais une étude très serrée du texte biblique, des évangiles notamment, l'ont convaincu que la vision de Jésus était une vision entièrement eschatologique et que le message de Jésus était centré justement sur l'avènement du royaume qui s'opérerait par un bouleversement cosmique. Néanmoins, bien que le travail de Schweitzer ait été pris en compte, on s'est surtout arrêté sur l'aspect eschatologique du message de Jésus, et on a laissé de côté l'aspect catastrophiste. Et c'est ainsi qu'un théologien qui a succédé à Schweitzer, qui se nommait Joachim Jeremias, a parlé de la vision des apôtres et de vision de Jésus comme d'une eschatologie en cours de réalisation. C'est-à-dire que pour lui, le royaume, donc le royaume millénaire, est en train de venir. Il ne cesse de venir. Il se réalise dans l'histoire. L'avenir, c'est maintenant, dit Jérémias. Et le royaume est déjà commencé. Bon, ça, on va voir justement ce qu'il faut penser de cette théorie. Je la livre simplement comme elle est, sans la discuter pour le moment. Un autre théologien qui a travaillé beaucoup sur l'eschatologie, d'ailleurs, c'est intéressant de constater que le XXe siècle a été un siècle où on s'est beaucoup penché sur l'eschatologie, c'est Rudolf Bultmann, le théologien bien connu de la Formgeschichte, c'est-à-dire de la démythologisation. Et pour lui, l'eschatologie était en fait une parabole de ce que nous vivons. Et c'est ainsi qu'il a interprété l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre pour l'avenir, c'est quelque chose que nous vivons maintenant. Et sous un langage imagé, l'Apocalypse rend compte de l'état actuel du monde. Donc il n'y a rien d'autre à attendre que celui-là. Bon. Après Bultmann, dans la période post-bultmannienne, puisque Bultmann a marqué son temps, sont apparus ce que l'on appelait les théologies de l'espérance. Et en fait, ces théologies de l'espérance étaient des vieilles théories de la théologie de la substitution, plus ou moins rebouillies à une sauce moderne, si on peut dire, et surtout qui étaient dues au fait qu'on s'est rendu compte que l'espérance, la notion d'espérance, avait migré hors des églises, et que l'Église n'avait plus grande espérance, justement, à présenter aux hommes. Et qu'il y avait eu une laïcisation de la notion chrétienne d'espérance dans la foi au progrès par justement la doctrine de l'évolution. Et c'était un petit peu la doctrine de Teilhard de Chardin qui a amené justement la redécouverte. On s'est dit, dans l'Église, mais après tout, est-ce qu'on n'aurait pas oublié quand même une dimension importante du message chrétien qui est la dimension de l'espérance. Un autre élément qui a amené justement cette évolution, ce sont les théologies de la libération. Les théologies de la libération sont des théologies qui sont nées en Amérique du Sud à la fin du siècle dernier, du siècle qui vient de s'achever, dans le contexte de l'oppression des Sud-Américains qui ont vu dans le message biblique, Ancien Testament, à commencer par l'Ancien Testament, c'est-à-dire le livre de l'Exode en particulier, puis dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, une raison d'engager un combat politique contre leurs oppresseurs. Et il y a eu télescopage, donc on pourrait dire, ça c'est un peu schématique ce que je dis là, mais en gros c'est à peu près ça, n'est-ce pas, il y a eu télescopage du marxisme, qui évidemment lui aussi est tout entier centré sur l'espérance de l'avènement d'une espèce de royaume de Dieu sur terre laïcisé, et puis justement les théologies de l'espérance telles qu'elles avaient été élaborées par des gens comme Teilhard de Chardin, par les post-bultmanniens dont nous avons parlé. Le principal représentant de cette école de pensée est le théologien sud-américain Leonardo Boff. N'est-ce pas ? Bien. Alors, au début de ce siècle, où en est-on ? Eh bien, on a en fait, comme dans toute l'histoire d'Église, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fin de compte, trois grands systèmes. Le premier qu'on appelle le post-millénariste, ça veut dire un système qui croit que la parousie, le retour de Jésus, aura lieu après le millénium. Le système pré-millénariste, qui est celui auquel nous adhérons, celui que nous avons exposé, à savoir que le Seigneur revient avant le millénium pour établir le millénium, et le système amillénariste, qui croit qu'il n'y a pas de millénium du tout, et que le retour de Jésus sera immédiatement et directement l'entrée dans l'état éternel. Voilà, si vous voulez, grosso modo, les trois systèmes d'interprétation. Alors nous allons nous arrêter longuement sur chacun de ces trois systèmes pour voir qu'il a des graves conséquences. Chacun de ces systèmes détermine une vision du monde, une vision de l'espérance chrétienne, une vision donc de l'eschatologie dans son ensemble radicalement différente, et dont certaines, à notre point de vue, apparaissent comme étant véritablement hérétiques et véritablement dangereux. Commençons, si vous le voulez bien, par le post-millénarisme. Bon, le post-millénarisme, qui, comme je l'ai dit il y a un instant, professe que Jésus revient après le millénium. Qu'est-ce que donc le millénium ? Eh bien, le millénium, c'est la période dans laquelle nous vivons. Nous vivons actuellement dans le millénium. Alors, quand commence le millénium ? Les théories divergent. Grosso modo, disons, avec la venue de Jésus. Alors certains diront avec la naissance de Jésus, d'autres avec la mort de Jésus, d'autres avec la Pentecôte, d'autres avec la conversion de Constantin. Ça aussi, c'était un peu la théorie d'Augustin. Nous sommes dans le millénium parce que l'Empire est devenu chrétien, donc le monde est devenu chrétien. Bon. Et par conséquent, pendant ce temps du millénium, Satan est lié, parce que Jésus l'a lié à la croix, comme disait un des adversaires du post-millénarisme, et bien si Satan est lié, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il a une drôlement longue corde. Bon. Mais voilà, c'est la théorie, Satan est lié, et l'Église, qui est l'avant-garde du royaume, en quelque sorte, a pour mission d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Et ce faisant, donc, de transformer le monde par la prédication de l'Évangile. Alors, la deuxième résurrection, la résurrection a déjà eu lieu, la résurrection des morts a déjà eu lieu. Quand quelqu'un naît de nouveau, il ressuscite. Donc c'est ça la résurrection. Il n'y a pas d'autre résurrection à attendre que celle-là. Et le millénium est donc le temps de l'Église qui doit s'étendre sur toute la terre et amener tous les hommes à entrer dans l'Église. À la fin, l'Église, semence du royaume, se confondra avec le royaume et l'Église triomphante, victorieuse, présentera en quelque sorte le monde pacifié au Seigneur quand il viendra. Donc Jésus reviendra dans un monde qui sera parfait, qui sera pacifié par l'action de l'Église. Ça a été la doctrine donc de l'Église officielle depuis Augustin en particulier, je l'ai dit tout à l'heure, et jusqu'à aujourd'hui, c'est la doctrine officielle de l'Église catholique. Et vous voyez tout de suite les conséquences que ça a. L'Église n'est pas seulement une puissance spirituelle, mais c'est une puissance temporelle. Elle doit régner. Elle règne avec le Christ. Elle doit régner au nom du Christ. Elle doit imposer aux hommes la loi du Christ. Et Augustin avait une interprétation très personnelle de la parabole des conviés, Vous savez que donc bon le roi qui prépare des noces pour son fils, les invités veulent pas venir. L'un est allé essayer des bœufs qu'il a achetés, d'autres voir un champ qu'il a acheté, d'autres viennent se marier, etc. Bon, finalement, le maître ordonne à son serviteur de faire entrer tous les mendiants, tous les va-nu-pieds qu'il trouvera dans la campagne. Bon, et il y a encore de la place. Alors le maître dit, bien retourne sur tous les chemins, et puis tous ceux que tu verras. Alors, bon, c'est là justement il y a un problème de traduction. Presse-les fortement d'entrer. Et la Vulgate a traduit par contrains-les d'entrer, oblige-les d'entrer. Ah! Et Augustin donc a utilisé ce mot pour dire l'Église doit user de contraintes pour obliger les gens à entrer dans l'Église, y compris de contraintes physiques. C'est la théorie papale jusqu'à aujourd'hui, les deux glaives, c'est pas les deux pouvoirs, les deux couronnes. Vous savez, le pape a deux couronnes, couronne spirituelle et couronne temporelle. Il est en principe le roi des rois, et tous les princes de la terre sont censés obéir au pape. C'est la théorie, c'était la théorie au Moyen Âge, et au Moyen Âge, l'Église catholique a essayé de faire passer la théorie dans la pratique. Et c'était le Saint-Empire romain germanique. C'était l'empereur Henri IV venant se traîner dans la neige à Canossa pour demander le pardon du pape. C'était Innocent III, c'était la croisade, c'était les bûchers de l'Inquisition. C'est au nom de cela. Contraint-les d'entrer. L'Église a le droit, peut user de contraintes parce qu'elle est appelée à régner. Et en milieu protestant, vous avez des gens qui ont des théories de ce type-là. Vous avez toute une école dont on va parler justement dans un instant, l'école reconstructionniste, dont la faculté d'Aix-en-Provence est le représentant le plus important, avec son ancien directeur Courtial. Vous avez des gens comme Jean-Marc Berthoux qui sont aussi dans cette idée-là. Quand l'Église aura le pouvoir politique, il faudra qu'elle use de contraintes, de violences et pour obliger les gens à vivre selon la loi du Christ. Ah oui, c'est comme ça. Et si vous lisez la théologie officielle de l'Église catholique, telle que vous la trouvez par exemple même dans le catéchisme des évêques, qui a été publié il y a plusieurs années, c'est la doctrine. C'est comme ça. Et vous comprenez bien que là, ça entre de plein fouet avec l'idée laïque moderne, quoi. C'est une des raisons pour laquelle il y a divorce aujourd'hui entre le christianisme et puis la société laïque qui ne veut plus de cette emprise de l'Église. Alors, voyez-vous, notre théorie du millénium a beaucoup plus d'importance que nous le croyons. Je ne sais pas si vous commencez déjà à toucher du doigt. Si on a une théorie fausse du millénium, donc du royaume de Dieu, eh bien, ça va avoir des conséquences dramatiques. Parce que là, justement, ça justifie l'Église en tant que pouvoir. Et Augustin a écrit un livre qui est encore aujourd'hui la norme dans toutes les églises historiques, Civitas Dei, la cité de Dieu, n'est-ce pas, dans laquelle il proclame que la conversion de Constantin a instauré donc le millénium et que l'Église donc a à faire de la terre tout entière la cité de Dieu. Voilà. Et ça sera la doctrine officielle de l'Église jusqu'à la Réforme. Et les réformateurs, nous l'avons vu tout à l'heure, adopteront peu ou prou cette théorie, sauf les anabaptistes. Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, ils seront persécutés. Donc, un temps où l'Église régnera, et elle est donc appelée, comme le dit le psaume 2, à paître les nations avec une verge de fer, à les briser comme le vase du potier, et aussi donc à amener les Juifs à la conversion. Et vous voyez tout de suite aussi là tout ce que il y a de sous-jacent quand nous étudions l'histoire d'Israël au Moyen Âge. Ah, c'est ça, l'Inquisition, les disputations, le problème des conversos. Converti de force bien souvent, c'est au nom de cette théorie-là. Et alors aujourd'hui, on pousse des cris d'orfraie, y compris dans les milieux catholiques, en disant, mais c'était affreux, mais il faut remonter à la source. C'est conséquent avec la doctrine de l'Église. catholique. C'est tout. Et justement, là, ce qui est dramatique, c'est que l'Église catholique n'a pas fait son autocritique à fond et ne s'est pas demandé pourquoi on a pu tenir des comportements et des doctrines aussi aberrantes au Moyen-Âge. Bah, tout simplement parce qu'il y avait cette idée que l'Église est appelée à instaurer le millénium de force sur la Terre. Maintenant, il y a cette autre théorie qu'on trouve aussi beaucoup plus dans les milieux protestants, mais qui n'empêche pas celle-là. Le royaume est une réalité présente dans le cœur des hommes. Bon, c'est pas entièrement faux d'ailleurs, nous aurons l'occasion de le voir. Mais enfin, il faut s'entendre sur ce que cela signifie. On aura l'occasion d'y revenir. Alors bien sûr, disent les partisans du post-millénarisme, quand on leur dit, écoutez, c'est bien gentil, mais enfin ça fait 2000 ans que ça dure, et le royaume de Dieu établi sur la terre, depuis Innocent III, ça a quand même pas mal reculé. Oui, répondent, c'est vrai, il y a des reculs apparents. Mais le bilan est globalement positif, comme disait un post-millénariste laïque et athée qui était Georges Marchais, n'est-ce pas ? Mais c'était finalement la même démarche d'esprit. Parce que le marxisme n'est rien d'autre qu'un post-millénarisme laïcisé. Alors, quand le Christ reviendra, le mal sera réduit à une quantité négligeable et le Messie reviendra régner sur un monde qui sera entièrement christianisé. Il n'y a pas de rupture donc entre l'histoire actuelle et puis l'histoire qui commencera, la parousie, si vous voulez. Et on utilise les paraboles du royaume. Si vous lisez, par exemple, un livre qui a été publié par Courtial il y a déjà un certain nombre d'années qui s'appelle « Le jour des petits recommencements », c'est exactement ça. Il dit, bon, ben voilà, depuis 2000 ans, ça n'a pas trop bien marché, bien sûr. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se décourager. On a des dizaines de milliers d'années devant nous pour établir le royaume. Il le dit comme ça. Ceux qui croient que le Christ va revenir dans les 15 jours qui viennent sont complètement à côté de la plaque. Le Christ ne reviendra pas, mais avant des dizaines, des centaines de milliers d'années. On a tout notre temps. Alors il faut recommencer à zéro. Il faut ressemer le grain de sève qui va grandir et qui va devenir un grand arbre. Et on prend un certain nombre de paraboles de ce type-là, n'est-ce pas, pour établir justement la doctrine de ce royaume. Bon. Les milieux charismatiques qui se sont manifestés dans les années 60, 70, sont en passe d'adopter un peu cette théorie-là. Il y a aux États-Unis et au Canada un mouvement qui est né dans la mouvance du charismatisme, qui s'appelle Kingdom Now. Vous savez, c'était au moment de la guerre du Vietnam, où on parlait Peace Now, c'était le slogan des adversaires de la guerre du Vietnam. Peace Now, d'ailleurs, les pacifistes israéliens ont repris cela dans ce mouvement qui s'appelle Shalom Arshav, la paix maintenant, n'est-ce pas ? Bon, on voit ce que ça a donné. Et donc, Kingdom Now. C'est maintenant qu'il faut que nous établissions le royaume. Et maintenant que nous avons des satellites artificiels, que nous avons la télévision, que nous avons Internet, que nous avons des moyens techniques formidables, nous avons enfin la possibilité d'évangéliser le monde entier et de faire en sorte que le monde entier devienne chrétien. Et l'idée, c'est que le 21e siècle soit le siècle de la conquête du monde par le christianisme. Voilà. Il y a un programme qui a été établi par ces gens-là, au moyen de ces techniques sophistiquées, conquérir le monde pour le Christ. Preuve d'ailleurs que nous sommes vraiment dans cette période de l'établissement du royaume, le progrès moral de l'humanité. Alors ça, c'était toujours le gros argument des post-millénaristes. C'est pourquoi les missionnaires avaient aussi à cœur de civiliser les barbares vers lesquels ils allaient, parce que l'Évangile, c'était un tout, c'était pas seulement leur annoncer l'Évangile, mais c'était aussi leur apporter les bienfaits de la civilisation, et c'était tout à fait en étroite symbiose avec les colons, qui, eux, défrichaient, créaient des routes, construisaient des hôpitaux, des écoles, et tout ça. Bon, je dis pas que c'était mauvais, bien, il n'y avait pas que du bon, d'ailleurs, comme on s'en rend compte aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le but, c'était justement de civiliser ces gens-là. Les missionnaires avaient non seulement une tâche d'évangélisation, mais une tâche aussi civilisatrice. Bon. On pensait qu'à partir du moment où les gens se convertiraient à Jésus-Christ, il en résulterait des changements sociaux, des changements économiques, des changements moraux, etc. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais enfin l'expérience a montré que c'était loin d'être le cas, parce que finalement ceux qui acceptaient véritablement l'évangile étaient somme toute trop peu nombreux pour que ça ait un impact vraiment en profondeur sur la société. Cette doctrine est essentiellement une doctrine du christianisme américain, ça il faut le dire, anglo-saxon d'une manière générale. Et le post-millénarisme a profondément modelé la mentalité nord-américaine. Et les Américains, les Yankees, vivent dans un monde qui est une société prémillénariste, post-millénariste, je veux dire, sécularisée, si j'ose dire. Ça veut dire que ils croient, les Américains croient que leur pays, les États-Unis, ont une vocation universelle à instaurer le bien sur la terre. Les États-Unis sont investis par Dieu de cette mission divine d'instaurer le règne universel de la paix, de la justice, de la démocratie dans le monde entier. Ça, c'est une vision sécularisée du post-millénarisme. Ils sont d'ailleurs, les États-Unis, le phare du christianisme, le plus grand pays chrétien du monde, et c'est la raison pour laquelle Dieu les appelle à une domination mondiale. Et les Américains se lancent dans ce rêve de domination mondiale avec une bonne conscience totale, parce qu'in God we trust. En Dieu, nous nous confions. C'est une mission qui a été confiée à l'Amérique par Dieu. L'Amérique est une sorte de deuxième terre promise, de deuxième Israël. Et là, on est en plein dans la théologie de la substitution, qui est inhérente avec le post-millénarisme. N'est-ce pas ? Les États-Unis sont le peuple élu de Dieu pour instaurer le bien sur la terre. Alors, bien sûr, les deux guerres mondiales ont mis un petit coup d'arrêt à cet optimisme béat, et l'idée d'un progrès universel, moral, a pris un petit coup au moment des deux guerres mondiales. Mais finalement, la théologie de la libération, dont nous parlions tout à l'heure, a redonné un regain d'intérêt, justement, à cette théologie-là. Et aujourd'hui, donc, on assiste à une résurgence de ce post-millénarisme au travers, justement, de ce qu'on appelle le reconstructionnisme. Je faisais allusion tout à l'heure. Bon, le reconstructionnisme, qui gagne aussi les milieux évangéliques, est une théorie selon laquelle nous avons des responsabilités sociopolitiques en tant que chrétiens, ce qui n'est pas d'ailleurs entièrement faux, mais que, somme toute, Dieu a appelé le monde, a appelé Adam à dominer le monde, et que cette vocation d'Adam, c'est l'Église maintenant qui en est la dépositaire. L'Église doit restructurer le monde, d'où le nom de reconstructionnisme qu'on donne à cette théologie. Il faut reconstruire le monde, restructurer le monde sous la direction de l'Église. Et depuis les années 70, cette théologie est en plein essor. En France, donc, elle est représentée par la faculté d'Aix-en-Provence, j'ai fait allusion tout à l'heure, et son but est la rechristianisation de la société, à la manière de ce qui s'est passé, de ce qu'a fait l'Église primitive. On prend comme modèle l'Église primitive qui a christianisé l'Empire romain. Et l'idée, c'est qu'on arrive dans 20 ans, dans 30 ans, à voir un nouveau Constantin se convertir au christianisme sur le plan mondial et imposer le christianisme au monde entier, comme Constantin l'avait fait pour l'Église ancienne. Le reconstructionnisme va de pair avec le créationnisme. Et les reconstructionnistes sont aussi très axés sur le créationnisme, ce qu'on retrouve au milieu catholique. Par exemple, les gens du Séché, avec lesquels nous sommes en contact, qui ont cette vision à fond, sont aussi créationnistes pour cette raison qu'ils sont post-millénaristes et qu'ils croient, bien entendu, que leur Église, à savoir l'Église catholique, est appelée, en fin de compte, justement, à régner sur le monde entier. Donc ici, nous avons ce premier système. Ce premier système que l'on croyait un petit peu dépassé après la Deuxième Guerre mondiale et qui, sous l'influence de ces différents courants que j'ai évoqués, est aujourd'hui en plein essor à nouveau. Comme si finalement le monde n'apprenait rien et l'Église n'apprenait rien. Il est évident, il est patent quand on fait le bilan de l'histoire du christianisme que l'Église a lamentablement échoué en ce qui concerne amener le progrès moral de l'humanité. Encore une fois, le siècle qui vient de s'achever en est l'illustration la plus éloquente. C'est le siècle le plus sanglant de toute l'histoire, sans parler des deux guerres mondiales, mais le marxisme, qui est un avatar justement du post-millénarisme, les guerres coloniales, de décolonisation, etc., etc. Bon, c'est l'échec total. Ça fait rien. On prend les mêmes, on recommence. Il y a une espèce d'optimisme indécrottable dans l'esprit de certain nombre de gens, n'est-ce pas, qui plus les choses vont mal, plus veut être d'un optimisme béat. Bon, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Alors, arrêtons-nous maintenant sur les théoriciens, justement, du post-millénarisme, parce que vous voyez, dans cette introduction rapide que j'ai faite, que le post-millénarisme est, à mon sens, une hérésie grave. Parce que c'est une hérésie qui conduit, justement, à ces aberrations de l'Église pouvoir. Et pour moi, quand je lis l'Écriture, je ne vois nulle part, n'est-ce pas, que l'Église doive être un pouvoir. Et Jésus a dit d'une manière très claire que son royaume n'était pas de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne se réalisera pas dans ce monde. Ça, c'est un texte que les amillénaristes, ça veut dire ceux qui nient toute forme de millénium, affectionnent. Disons, le royaume, il est uniquement céleste. Bon, je ne pense pas que ce soit ce que ça veut dire. On verra, on aura l'occasion de le revoir quand on parlera de l'amillénarisme. Mais ça veut dire qu'il ne peut pas être réalisé sur Terre par des moyens humains. C'est ça. La Jérusalem nouvelle descend en haut, ça veut dire de Dieu par une intervention directe de Dieu. Et Schweitzer, comme j'ai dit tout à l'heure, a montré que cette intervention, cet avènement du royaume ne pourrait être, selon l'enseignement de Jésus lui-même, qu'un avènement qui prendrait une forme catastrophiste. Ça veut dire de grands bouleversements ayant Dieu pour auteur, seuls pourront justement établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais voilà, les post-millénaristes croient que le royaume est à notre portée, que donc c'est le royaume maintenant. Tout sera accompli par l'Église, ici et maintenant, dans le temps présent. Voilà. Bon, maintenant, cette doctrine du post-millénarisme va beaucoup plus loin encore. Et là, on touche à une vision de la Bible elle-même et de l'histoire. Parce que finalement, le post-millénarisme est basé sur le fait, sur l'idée, que l'Église, qui est au centre du système, puisque l'Église est l'embryon du royaume, l'Église existe de tous les temps. Elle existe déjà sous l'Ancienne Alliance, ça veut dire à l'époque de l'Ancien Testament. Et qu'à cause de cela, l'Église est destinée à englober le monde entier et qu'à la fin, toutes les nations deviendront chrétiennes. Le millénium, donc, est uniquement la période d'expansion de l'Évangile. Lorsque l'Église aura réussi sa mission, on arrivera effectivement à un âge d'or. Quand l'Église régnera, on était presque à ce stade-là au Moyen-Âge, hein, à l'époque des papes clunisiens, c'était ça. Bon. Alors ce sera le véritable millénium. Bien entendu, ceux qui se souviennent un petit peu, les historiens qui se souviennent un peu de ce qu'a été le monde à l'époque d'Innocent III, ont un souvenir assez ému de cet âge d'or. C'est pas bon. Enfin bon, passons. Et pour d'autres, on est déjà dans l'âge d'or. Chacun apprécie les choses comme il veut. Alors, dans cet âge d'or, le péché ne sera pas réduit, ne sera pas éliminé, mais il sera réduit au minimum. En attendant, Même si ce royaume est invisible, il est spirituel dans le cœur des hommes. Donc le royaume now, kingdom now, c'est maintenant. Alors, cette notion a donné naissance à l'idée du progrès, qui est une des bases de notre civilisation moderne. Le progrès, l'idée de progrès, l'idée d'un âge d'or qu'on trouve dans le marxisme, qu'on trouve dans les utopies du 19e, en particulier du 18e, déjà du 19e, est une forme laïcisée de cette espérance du royaume messianique qu'on trouve aussi dans le judaïsme d'ailleurs actuel. Et ce faisant, la race humaine finira par être sauvée, autrement dit par se sauver elle-même. Vous voyez là aussi l'hérésie à laquelle on arrive, et cet égard de Chardin évidemment. Les 1000 ans sont donc à prendre au sens symbolique, bien qu'ils soient limités dans le temps. Alors, bien sûr, quand on part avec des théories pareilles et qu'on lit l'écriture avec des pareilles lunettes, on arrive à cette conclusion qu'écrivait Hodge, qui est un des principaux représentants de ce courant théologique, Apocalypse 20, c'est-à-dire le passage où il est question du millénium, est le passage le plus obscur de toute la Bible. On comprend. On comprend sans peine que ce qu'il peut avoir d'obscur quand on lit l'écriture avec de pareilles lunettes. Mais il est vrai que l'Église a donc, dit Hodge, a imposer sa loi, la loi du Christ, à la société tout entière. Ça ferait plaisir à Jospin, si on lui disait ça, bien sûr, et à beaucoup de gens comme ça. Alors, évidemment, à partir de ce moment-là, on a des gros problèmes d'interprétation d'écriture, Ancien et Nouveau Testament. Quid, par exemple, des prophéties relatives à Israël? Bon, très simple. Déjà, dès le IIe siècle, on avait commencé ce processus-là. On les spiritualise. Et nous allons voir justement comment. Exemple, il y a un texte qui nous dit « Le royaume de Dieu », Romains 14, verset 17, « c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. » Bon, voilà, le royaume, c'est ça. Il ne faut pas attendre la résurrection d'Israël à la fin des temps. Non, le royaume de Dieu, c'est juste la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit, point final. On arrête là. Or, ce royaume de Dieu, il existe depuis la création du monde. Il est comme le grain de moutarde que le Seigneur a jeté dans la pâte du monde, et il grandira d'une manière irrésistible jusqu'à la fin, même si la fin doit prendre des centaines de milliers d'années. Dixit Courtial. Mais c'est vrai. À la fin de cet âge d'or, qui durera ce qu'il durera. C'est vrai, disent les post-millénaristes, il y aura de grandes crises, et notamment révolte du mal. Satan sera délié, et on reprend notre Apocalypse 20. Il séduira à nouveau toutes les nations. Alors aura lieu la grande tribulation, et alors le Seigneur reviendra pour mettre fin à cette révolte, et faire entrer l'humanité tout entière dans l'état éternel et définitif, donc la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Voilà, grosso modo, si vous voulez, le schéma des post-millénaristes. Alors, quelle est la place d'Israël dans toute cette affaire-là? Ben, justement, on a du mal à le caser. Bon, alors on s'en débarrasse très rapidement. Israël est de toute façon rejeté, puisqu'il a rejeté Jésus, donc il est définitivement rejeté, et toutes ces bénédictions sont étendues à l'Église. D'ailleurs, la pierre de Daniel 2 qui doit frapper les pieds de la statue et remplir toute la terre n'est pas Israël, mais l'Église. D'ailleurs, Israël, disent les post-millénaristes, a de tout temps été destiné à être dispersé et disparaître. C'était sa destinée. Ça au moins, on est tranquille. Et c'est là maintenant justement qu'on arrive au noyau dur de ce qu'est la doctrine post-millénariste. Le post-millénarisme a une vision essentiellement sotériologique. Ça veut dire que le but, le plan de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Ce que nous contesterions en disant que le plan de Dieu n'est pas sotériologique mais doxologique. Ça veut dire que le but de Dieu n'est pas de sauver l'humanité, mais de révéler, de manifester sa doxa, c'est-à-dire sa gloire. Alors évidemment, pour révéler cette gloire, Dieu a un plan de salut. Mais le plan de Dieu va bien au-delà du simple salut de l'humanité. Il va à cette réconciliation de toutes choses dont nous parlions tout à l'heure, tout, plutôt les dernières fois, tout récapitulé dans le Messie, dit Paul aux Colossiens, pour la seule gloire de son nom. C'est tout, n'est-ce pas ? Or, nous dit le post-millénariste, Dieu a de tout temps posé le principe éternel du salut. Et se pose ici une question complexe d'ailleurs. Bon. Ici, nous sommes dans une théologie évangélique. Je ne parle pas ici des églises historiques, je parle ici des églises évangéliques, qui sont toutes d'accord pour dire que l'on est sauvé, bien entendu, par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, que ce salut est par la foi, par la grâce de Dieu. Bon, même on dirait que tous les protestants seraient d'accord avec cette proposition. Bien. Mais maintenant, il y a un autre problème. Quid de ceux qui ont vécu, qui sont morts avant la venue du Christ ? Abraham est-il sauvé ? David est-il sauvé ? Les prophètes sont-ils sauvés ? Je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de chrétiens qui répondraient non. C'est une évidence qu'Abraham est sauvé, que les prophètes sont sauvés, que David est sauvé. Mais comment ces gens-là ont-ils été sauvés ? Puisque Jésus n'était pas venu et n'était pas mort. La réponse de la théologie classique, réponse qui est la nôtre aussi, ces gens-là ont été sauvés de la même manière que nous, par le sacrifice de Jésus. Et comment ce sacrifice a-t-il pu les atteindre, eux qui vivaient bien avant ce sacrifice-là ? Parce qu'ils ont eu la foi. Parce qu'on est sauvé uniquement par la foi, par les œuvres. Alors nous disons, oui, ces gens-là ont été sauvés par la même foi que la nôtre. Confère Hébreux 11. C'est par la foi que un tel, etc. Bon. Le juste vivra par la foi. Paul reprend cette expression dans l'Épître aux Romains. Abraham a été justifié par la foi. C'est toute la démonstration de Paul aux Romains. Pas de problème. On est entièrement d'accord avec ça. Mais là où nous divergeons avec les post-millénaristes, c'est quand les post-millénaristes nous disent, ces gens-là, ce qu'ils appellent les saints de l'Ancien Testament, ont été sauvés par la foi, la même foi que nous, en Jésus, mort et ressuscité pour eux. Ça veut dire que Abraham, David, les prophètes, ont eu d'une certaine manière une connaissance anticipée du sacrifice de Jésus. Et ils ont cru qu'un jour le Messie mourrait pour leurs péchés. Et alors, les post-millénaristes prennent un certain nombre de textes prophétiques, disant, ben voilà. À mon avis, c'est un petit peu là que le bât blesse. Car finalement, quand nous lisons l'Ancien Testament, nulle part, dans aucun texte, il ne nous est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça, je crois que faut être honnête, objectif et reconnaître la réalité. Et l'idée d'une mort expiatoire du Messie pour les péchés des hommes n'apparaît pour la première fois dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, qu'en Ésaïe 53, c'est-à-dire à la fin de la période du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Alors on peut au plus admettre, et encore avec des nuances, qu'à partir de cette période, 7e siècle avant Jésus-Christ, un certain nombre de gens ont peut-être eu cette foi. Mais avant, David, nulle part. Ah, vous allez me dire les psaumes. Ah oui, les psaumes. Le psaume 22. Le psaume 22. Oui, mais attention. Quand nous disons Nouveau Testament, qu'est-ce que nous rendons compte ? que les apôtres même ne comprenaient pas les Écritures, et qu'il a fallu une visitation du Saint-Esprit pour leur permettre de lire, de comprendre les Écritures, que de comprendre que d'après les Écritures, le Messie devait mourir et ressusciter. C'est évident. C'est pas aussi net que ça, quand on étudie justement. Nous avons l'habitude de voir au travers du Nouveau Testament, de lire le Nouveau Testament, l'Ancien Testament au travers du Nouveau. Ça nous paraît une évidence. Quand nous voyons comment les Juifs lisent l'Ancien Testament, et c'est ce qui a tellement dérouté les chrétiens à la fin du Moyen-Âge, quand il y a eu les dialogues, les fameuses disputations avec les Juifs, ils se sont rendus compte que les Juifs lisaient l'Ancien Testament de manière tout à fait différente, et qu'on peut donc lire l'Ancien Testament d'une manière tout à fait différente. Et que, par conséquent, si j'ose dire, pour comprendre le véritable sens de l'Ancien Testament, il fallait attendre la venue de Jésus. C'est finalement ce que le Nouveau Testament nous dit. Et le Nouveau Testament nous dit d'une manière claire, explicite, Paul, chez Paul notamment, l'Épître aux Éphésiens, que ce mystère, mystère de la mort et de la résurrection du Messie, mystère de l'Église, n'a pas été révélé aux hommes de l'Ancienne Alliance comme il l'a été aujourd'hui aux saints apôtres et prophètes du Messie. Et que les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, dit l'apôtre Pierre. Et que l'esprit essayait de sonder, mais ils ne comprenaient pas ce que j'expliquais hier dans l'étude biblique que j'ai faite. Ils n'ont pas tout compris. Alors, imaginez l'Israélite moyen qui venait trois fois par an apporter son sacrifice à Jérusalem, à l'époque du premier temple, qui connaissait d'ailleurs l'écriture souvent bien imparfaitement, mais qui avait une foi sincère en Dieu. Vous savez, si vous lui avez demandé de faire une théologie de la mort et de la souffrance du Messie, zéro, hein, incapable. D'ailleurs, l'espérance messianique, telle qu'on la trouve à l'époque, avant l'époque de Jésus, avant l'époque du Nouveau Testament, c'est une espérance qui, finalement, se concrétise à la fin de la période de l'Ancien Testament, à partir du message des prophètes. Si vous aviez parlé du Messie à quelqu'un qui vivait à l'époque de Roboam, par exemple, qu'est-ce que c'est le Messie? Ben, le Messie, il y a plusieurs Messies, hein. Il y a le prêtre, il y a le roi, il y a le prophète, c'est des Messies, tout ça. Il a raison, c'est comme ça. Mais l'idée d'un Messie régnant éternellement, etc., ça n'existait pas. Quand nous lisons l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce que nous lisons? Après avoir parlé à différentes reprises et de différentes manières aux patriarches, puis aux prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a là une doctrine fondamentale pour la compréhension de l'Écriture. C'est la doctrine de la progression de la révélation dans l'Écriture. Toute la révélation ne nous est pas donnée d'un coup. La révélation est progressive. Et ça, c'est ce que veulent ignorer les post-millénaristes. Pour eux, tout est déjà donné dès le départ. Tout existe déjà. Dans le protévangile, la semence de la femme qui écrasera la tête du serpent, tout est là. Pas si simple. Tout est là, c'est vrai. Quand tout est accompli, on comprend. Et finalement, pour nous, c'est le même problème avec les prophéties sur la deuxième venue de Jésus. Il y a plein de prophéties sur la deuxième Jésus que nous ne comprenons pas. Et quand elles seront accomplies, ces prophéties, on dira, mais comment ils ont été assez bêtes pour ne pas voir ça? C'était tellement clair, tellement évident. Ben oui, quand c'est accompli, c'est tellement évident. Tant que ce n'est pas accompli, ce n'est pas si évident que ça. Même les apôtres avaient du mal à comprendre. Alors je reviens à ma question. Comment ont été sauvés les saints de l'Ancien Testament? Par la foi. Mais l'objet de la foi n'était pas le même que nous. Lisez Hébreux 11 et vous verrez. Quel a été l'objet de la foi d'Abel? La foi en Dieu, tout simplement. Quelle a été la foi d'Abraham? La foi dans les promesses de Dieu, qu'il deviendrait une grande nation, que Dieu allait lui donner la terre d'Israël, que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Voilà, c'était la foi d'Abraham. C'est ça qu'il a cru. Quelle a été la foi de David? Eh bien, qu'un jour, Dieu ferait en sorte qu'il y ait un de ses fils sorti de ses entrailles qui règne sur son trône à perpétuité. Etc. Quelle a été la foi de Samson? Eh bien, que Dieu allait lui donner la victoire sur les Philistins. Quelle a été la foi de Gédéon? Que Dieu allait lui donner la victoire sur les Madianites. Et si vous voulez, dans cette foi-là, il y avait déjà en germe la foi dont le Messie m'aurait ressuscité. Mais ils ne le savaient pas. Ils ne pouvaient pas l'exprimer de cette manière, parce que les lumières qui étaient les leurs n'étaient pas suffisantes pour qu'ils l'expriment de cette manière. Mais Dieu a vu leur foi en lui, finalement, dans sa puissance, dans ses promesses. Et ça suffit. Ils ne comprenaient pas toute l'étendue des promesses, mais ils savaient qu'il y avait une promesse. Ça suffit. Et finalement, nous rejoignons un petit peu aussi un autre problème, sotériologique. Voyez-vous, nous sommes en pleine sotériologie. Quid d'un individu qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile, mais qui cherche Dieu de tout son cœur? C'était la question que posait le Sadhu Sandarsingh quand, visitant l'Europe, il disait, écoutez, c'est aberrant. Moi, je vois ici des gens qui se disent chrétiens, qui ont une connaissance du chemin du salut, qui vivent comme des parfaits païens, et qui, à cause de cette connaissance de l'Évangile qu'ils ont, condamnent un certain nombre d'hommes pieux en Inde qui n'ont pas la connaissance de Jésus que vous avez, vous, les Occidentaux, mais qui cherchent Dieu de tout leur cœur et qui mènent une vie de sainteté, de piété infiniment supérieure à de nombreux soi-disant chrétiens. Il dit, c'est le cas de ma mère, il dit. Il avait beaucoup de respect pour sa mère, qui était une femme très pieuse. Ma mère, elle n'a jamais connu Jésus. C'est dramatique pour elle. Mais jamais personne ne lui a parlé de Jésus. Mais elle avait une recherche de Dieu incroyable, disait le Sadhu. Et c'est à cause d'elle que moi, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur et que j'ai trouvé Jésus. C'était une sainte femme. Et vous auriez dit que ma mère va être perdue. Tout simplement parce qu'elle a un peu eu le privilège que les Occidentaux, privilège dont les Occidentaux souvent se dégagent, finalement n'en tirant pas toutes les conséquences. Et non, c'est pas sérieux. Ma mère avait une foi en Dieu. Bon, elle n'avait pas toute la lumière. Eh bien, il disait, le Sadhu, je crois que Dieu en tiendra compte. Et Paul nous dit un peu la même chose, il dit, ne jugez de rien avant le temps. Et c'est pourquoi je crois qu'il est excessif de prétendre avec nos amis post-millénaristes, c'est pas, que la connaissance du salut par Jésus-Christ mort et ressuscité a été quelque chose que l'humanité a toujours eu. Ça, je ne pense pas. Ça, c'est excessif de le dire. Il y a une progression de la révélation de par le témoignage de l'Écriture elle-même. Et enfin, dernier point, et j'en aurai terminé pour ce soir. Si donc le salut en Jésus-Christ, mort et ressuscité, a été accessible aux hommes de tous les temps, c'est donc que de tous les temps, il y a des hommes qui ont accepté ce salut, c'est donc que l'Église existe de tous les temps. Vous avez compris la démonstration. Là, on est en plein syllogisme, dans la plus pure tradition scolastique. C'est le ergo, ergo, ergo. Donc. Si il y a une connaissance du salut à chaque époque, l'Église existe de chaque époque. Donc l'Église existe dans l'Ancien Testament. Alors bon, elle commence soit avec Adam pour les uns, soit avec Noé pour les autres, soit avec Abraham pour enfin un troisième groupe. Et pendant tout un temps, l'Église se confond avec le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est une forme de l'Église, une forme que l'Église a prise dans l'histoire. Voyez-vous, là, selon la conception qu'on a du millénium, ça va très 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 loin, très 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 loin. Mais, disent les post-millénaristes, déjà à cette époque-là, Tout Israël n'était pas l'Église. Était l'Église simplement le reste d'Israël, les 7000 qui n'avaient pas plié les genoux devant Baal. Et le reste des Israélites étaient des apostats. Et quand Israël, à la venue de Jésus, a rejeté son Messie, il y a eu découplage entre l'Église et Israël. Israël était une forme matérialisée de l'Église. C'est-à-dire, l'Église était, Israël était un État, donc était un royaume, c'était le royaume. Et puis, quand Israël a rejeté le Messie, le royaume d'Israël a cessé d'exister et il ne sera plus jamais reconstruit. Israël est rejeté définitivement. Et l'Église s'est poursuivie au travers des païens maintenant. L'Église qui avait coïncidé avec Israël coïncide maintenant avec les païens. Et de la même manière que l'Église d'Israël devait constituer un royaume temporel, terrestre, de la même manière, l'Église des païens doit constituer des royaumes temporels et terrestres, théocratiques. Et la loi, la Torah d'Israël, dans toute sa rigueur, doit être appliquée dans l'Église parce que la Torah est éternelle. Et c'est pourquoi Cortial dit qu'il faut lapider les adultères, et etc. Il y a du boulot, hein. Bon. Et c'est pourquoi, donc, il faut qu'il y ait des armées chrétiennes, il y ait une chrétienté. C'est pourquoi aussi il y a une coïncidence entre l'Église et la société. L'Église et la société, l'Église doit imprégner la société, doit intégrer la société. C'est la chrétienté. Et c'est pour la raison pour laquelle il faut le baptême des enfants. Le baptême des adultes est inconcevable. Parce que on est chrétien à partir du moment où on est dans une société chrétienne. Et il faut une sanction et le baptême des enfants remplace la circoncision. C'est la circoncision du cœur dont parlait l'apôtre Paul, le baptême des enfants. Le baptême des adultes est inconcevable, sauf pour ceux qui n'ont jamais connu l'Évangile et qui découvrent l'Évangile. Vous voyez toutes les conséquences du rejet du millénarisme ? Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir, et puis on poursuivra cette étude du post-millénarisme, qui est une grave hérésie, comme nous le voyons.